Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Convocation et déroulement du Concile de Nicée. Un historien du siècle dernier, Henri Maroux, définit ainsi le mot hérésie, je le cite. Une hérésie est souvent au point de départ la saisie véhémente d'un aspect authentique mais partiel de la révélation, qui développée unilatéralement se déforme bientôt et compromet l'équilibre de toute la théologie. Le prêtre d'Alexandrie, Arius, voulant justifier le monothéisme chrétien, s'était en effet saisi d'un aspect authentique de la révélation, à savoir que le Dieu et Père de Jésus notre Seigneur a pour caractéristique et pour privilège d'être seul sans origine ou encore inengendré. En termes plus simples, de ne provenir de rien ni de personne, lui de qui tout provient. Mais comme ce privilège d'être sans origine ne s'applique pas au Christ, Verbe de Dieu, Arius en avait déduit que le Verbe de Dieu n'est qu'une créature. Pour être précis, il n'était pas pour Arius une créature comme nous, mais une sorte d'intermédiaire entre le seul Dieu et les créatures. D'ailleurs, puisque l'Écriture nous dit que Dieu a créé la sagesse au commencement de ses œuvres, c'est un verset de Proverbe 8, 22 que les Ariens citaient volontiers, n'est-ce pas la preuve que la sagesse qui est le Christ a été créée par Dieu pour servir ensuite d'instrument de la création proprement dite ? Elle est donc créée d'un certain point de vue, et d'un autre point de vue, elle est associée par Dieu à la création de tout le reste. Devant l'énorme crise déclenchée par le prêtre Arius à Alexandrie, voilà donc les évêques du monde entier qui, à l'invitation de l'empereur Constantin, se rendent à Nicée, sa résidence d'été sur le Bosphore, aujourd'hui Iznik en Turquie, pour y tenir un concile. Ce concile dont nous célébrons cette année le 1700e anniversaire. Les évêques du monde entier, sans doute pas tout à fait. La tradition a retenu le chiffre de 318 participants, pour l'essentiel orientaux, à quelques exceptions près, dont l'évêque Osius de Cordoue en Espagne, proche de l'empereur et conseiller personnel du pape Sylvestre. Bien que le pape n'ait pas été personnellement présent à Nicée, on peut donc dire qu'il était représenté au concile et qu'il en a approuvé les travaux. Dans tous les conciles ultérieurs, la présence de l'évêque de Rome ou de ses représentants sera considérée comme un critère décisif pour qu'on puisse attribuer au concile l'autorité suprême d'un concile écuménique, c'est-à-dire dont la validité est définitive pour l'ensemble de l'Église. La puissance invitante à Nicée est donc Constantin lui-même, devenu seul maître de l'Empire romain, et toujours bien décidé à fonder sur l'Église chrétienne l'unité de son vaste empire. Cette intuition était en même temps un pari audacieux sur la croissance de l'Église, car à l'époque, sur les 70 millions d'habitants de l'Empire, il y avait sans doute moins de 10% de chrétiens. Il avait donc décidé de privilégier une religion qui n'était professée que par une minorité de ses sujets, et qui rencontrait encore de très fortes oppositions. Dans ces conditions, on comprend qu'il ait vu d'un très mauvais œil la querelle théologique qui s'est développée en Orient, et qu'il ait souhaité que les évêques se mettent promptement d'accord pour rétablir l'unité. Pour l'ouverture du concile, on s'était réunis le 20 mai 325 dans la salle principale du palais impérial. Quelques-uns des évêques présents portaient encore les traces des tortures qu'on leur avait fait subir au cours des dernières persécutions. L'un d'entre eux ne pouvait plus se servir de ses mains, d'autres n'avaient plus qu'un œil. Nous avons la chance de posséder le récit de ce moment solennel par Eusèbe de Césarée, un des premiers historiens de l'Église. Voici ce qu'il écrit. Tous ceux qui composaient le concile s'étaient trouvés au jour qui avait été choisi pour décider les questions. Ils entrèrent dans la grande salle du palais et s'assirent selon leur rang sur des sièges qui leur avaient été préparés. Ils demeurèrent dans un grave et modeste silence en attendant l'arrivée de l'empereur. Tout de suite après, trois de ses parents entrèrent l'un après l'autre. On vit paraître ensuite non pas ses gardes, selon la coutume, mais seulement les membres de sa cour qui professaient notre religion. Dès qu'on entendit le signal qui avertit de son arrivée, tous les évêques se levèrent et à l'heure même, il entra au milieu d'une troupe de personnes de qualité et parut comme un ange de Dieu. Il éblouissait les yeux par l'éclat de sa pourpre et par la splendeur de l'or et des pierreries dont elle était relevée. Voilà quels étaient ses ornements extérieurs. Pour ce qui est des intérieurs, il paraissait très clairement par la modestie avec laquelle il tenait les yeux baissés, par l'honnête pudeur qui se faisait remarquer sur son visage, par son mouvement et sa démarche, par l'avantage de sa taille, par sa bonne humeur, par sa constitution forte et robuste, que son âme avait des vertus dont l'excellence ne peut être assez relevée par les éloges qu'on pourrait en faire. Lorsqu'il fut arrivé à hauteur des sièges, il s'arrêta. Quand on lui eut apporté un siège bas qui était en or et que les évêques lui eurent fait signe de s'asseoir, il s'assit et ils s'assirent après lui. Dans ce compte-rendu grandiloquent, on voit que Zeb n'est pas loin de canoniser Constantin. Or, Constantin était un saint douteux. À titre d'exemple, un an après le concile, il fait exécuter pour des raisons obscures son propre fils Crispus et il fait disparaître Fausta, sa seconde épouse. L'explication la plus rationnelle de l'enthousiasme de Zeb tient sans doute au fait que les évêques, encore persécutés peu de temps auparavant, se voyaient tout à coup choyés et couverts d'honneur. Il y avait de quoi perdre un peu la tête. Or justement, les évêques ont trouvé agréable d'être aussi bien traités, mais ils n'ont pas perdu la tête. Après la locution courtoise que leur adresse Constantin, ils lui laissent la présidence d'honneur des sessions du concile, mais ils manifestent clairement que le vrai président du concile est le Christ lui-même. Au Sénat romain, la statue de la victoire se dressait devant la tribune présidentielle. Ici, le livre des évangiles fut placé entre les évêques et l'empereur. C'est l'origine du rite de l'intronisation des évangiles qui ouvre les sessions des conciles. Rappelons que le mot « intronisé » signifie « placé sur un trône ». On met ainsi en évidence que celui qui siège sur le trône et qui préside les conciles n'est pas le chef politique, ni même le pape, mais c'est le Christ lui-même. Les débats du concile commencent avec des interventions d'évêques plus ou moins favorables à Arius. Il propose une première formule de foi qui ne nous est pas parvenue, mais qui soulève des protestations véhémentes. Puis Eusèbe de Césarée, notre historien justement, propose le symbole de foi qui est utilisé dans son diocèse. Il est intéressant d'en citer les premières phrases, les voici. « Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, le Créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vie de vie, Fils unique, premier-né de toute la création, engendré par le Père avant tous les siècles, et par lui tout a été fait. » On voit que ce symbole est très peu différent de celui qui sera finalement adopté. Pour confesser la foi au Christ, il utilise des expressions empruntées à saint Jean, comme le fera le symbole de Nicée, Dieu, lumière, vie et bien sûr Fils unique. Quant à l'expression « premier-né de toute la création », elle est tirée de l'épître aux Colossiens. Elle ne signifie évidemment pas que le Christ est une créature, à condition de bien la comprendre. Mais les Ariens la comprennent autrement. Comme ils comprennent autrement la fameuse phrase du livre des Proverbes que j'ai déjà citée, où la sagesse dit que Dieu l'a créé au commencement de ses œuvres. Ici apparaît la double difficulté à laquelle vont se trouver confrontés les pères de Nicée. D'une part, ils savent que les partisans et les adversaires d'Arius citent tous l'Écriture, mais en choisissant des citations différentes. Par exemple, les partisans d'Arius citent la parole de Jésus « Le Père est plus grand que moi », tandis que leurs adversaires rétorquent que Jésus a dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Les premiers disent « Vous voyez bien que le Christ est inférieur au Père, puisqu'il dit qu'il est plus grand que lui ». Mais les seconds répliquent « Non, vous voyez bien qu'il lui est égal, puisqu'il dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Comment les départager, alors que les uns comme les autres citent l'Écriture ? D'autre part, l'interprétation d'une même parole de l'Écriture peut être différente. Il est clair que partisans et adversaires d'Arius ne font pas la même lecture des expressions que j'ai déjà citées, le Christ premier-né de toute création et la sagesse créée par Dieu au commencement de ses œuvres. En conséquence, tout le monde commence à se rendre compte qu'il ne suffit pas de citer l'Écriture, mais qu'il faut donner l'interprétation juste de ce qu'on cite. Et cela, on ne peut pas le faire seulement par l'Écriture. Il va donc falloir utiliser un langage explicatif, et c'est ce qu'on appelle le langage dogmatique. C'est ce dont nous parlerons la prochaine fois.